Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et pour la première fois de sa carrière, Bruce Springsteen se raconte dans une autobiographie qui sort aujourd'hui en librairie. Stephen Bellery l'a lu pour nous. On ouvre le livre du boss dans un instant. Nous irons en banlieue parisienne sur le tournage du film Le Petit Spirou, qui sortira dans un an en salle. Stéphane Boutsock a notamment rencontré Sacha Pinault, 11 ans. C'est lui qui incarnera le célèbre petit rouquin. À la télévision ce soir, France 3 diffuse le téléfilm Marion, 13 ans pour toujours, un drame sur le harcèlement scolaire tiré d'une histoire vraie. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL de septembre, Pereira prétend, de Pierre-Henri Gaumont.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
On démarre en musique cette émission, ou presque, puisque c'est l'événement de la semaine, la sortie aujourd'hui de Born to Run, la première autobiographie de Bruce Springsteen, un livre qui est accompagné parallèlement d'une compilation avec 5 inédits. Bonjour Stephen Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez lu pour nous les 620 pages, c'est comment ?
Passionnant. Le style est direct, incisif, comme ses chansons. Même si vous n'aimez pas sa musique, vous ne resterez pas insensible à son destin. Born to Run, c'est le roman d'un gamin du New Jersey qui a grandi près d'une église, entre les odeurs d'une usine Nescafé et celle du mazout qui sert à chauffer la petite maison et qui est devenue l'une des plus grandes rockstars. On vivait quasiment sous le seuil de pauvreté, écrit le boss. Une mère secrétaire juridique qui le couvait d'affection, un père qui travaille chez Ford et qui déteste la mollesse, un grand-père qui répare des radios pour subvenir aux besoins de la famille. Bruce Springsteen aura deux chocs devant sa télé, Elvis Presley et les Beatles. Il tond les pelouses pour s'acheter sa première guitare sèche à $18, crée un premier groupe, The Merchants. « On faisait juste du raffut », raconte le rocker. Il sera viré de la bande à cause de sa, je cite, « guitare merdique ». Sa mère empruntera de l'argent pour lui payer sa première guitare électrique. Baby Eye, l'un des inédits de Chapter and Verse, nouvelle compilation qui vient de sortir. La voix est encore enfantine. Bruce Springsteen chante avec The Castles. Il a un accident de moto, léger traumatisme crânien dont il se servira pour être réformé de l'armée.
Alors cette autobiographie, Born to Run, c'est surtout l'occasion d'en savoir plus sur la personnalité de Bruce Springsteen, Stephen.
Dans ma vie de jeune musicien, ni drogue ni alcool, j'étais un faux hippie, confesse Bruce Springsteen. J'avais un ego colossal, j'avais affûté mon talent pour réaliser mon ambition. À 22 ans, le fan de Bob Dylan signe son premier contrat. Il a déjà des centaines de concerts derrière lui. 1973, premier album, la maison de disques écoute. Pas de hit, lui dit-on. Le deuxième ne marchera pas mieux. Pour son troisième disque, Bruce Springsteen raconte « Il fallait que ce soit épique, extraordinaire et complètement inédit. Pour mon nouvel album, j'avais écrit une chanson. Elle s'appelait Born to Run. » Un million d'albums vendus aux États-Unis. J'ai écrit Born to Run assis sur le bord de mon lit. Il ne s'agissait pas d'écrire au sujet de quelque chose, mais d'écrire sur tout, confesse l'artiste dans son autobio. Sa plume s'affine, mon écriture se focalisait sur des questions d'identité, de savoir ce que signifiait être américain.
Autre album majeur, The River.
1980, The River cristallisait mes préoccupations, lit-on. Bruce Springsteen révèle qu'il l'a écrite pour sa sœur Virginia, devenue maman à 17 ans en pleine récession. Bruce Springsteen, chroniqueur social de l'Amérique, il revient sur son rôle d'auteur qu'il définit ainsi « cartographier ce territoire entre le rêve américain et la réalité ». 1982, le réalisateur Paul Schrader lui envoie le scénario du film « Electric Blue ». Sur la première page, il lit quatre mots. Born in the USA a changé ma vie, ça a été une explosion nucléaire, une de mes plus grandes chansons et une des plus incomprises, raconte Springsteen. Plus de 10 ans après la fin de la guerre du Vietnam, j'avais écrit mon histoire de soldat. La star émet un regret quelques pages plus tard à propos de la politique. Je n'ai jamais eu le courage d'être en première ligne dans ce domaine.
Alors le succès, l'argent arrive, mais Bruce Springsteen n'est pas heureux pour autant.
C'est la principale révélation de cette autobiographie. Le boss s'épanche longuement sur le mal qui le ronge depuis l'âge de 32 ans, la dépression. Sa première rencontre avec un psy, je m'assois devant lui et je fonds en larmes, livre le chanteur. Sa thérapie durera 25 ans. Il dit avoir une dette envers son thérapeute et avoir replongé plusieurs fois, notamment après son 60e anniversaire, sans antidépresseur et sans son épouse. La superstar confesse qu'il ne sait pas s'il aurait tenu. Autre démon qu'il expérimente à 22 ans seulement, l'alcool. Il y trouvera une sorte de confiance tordue. Il écrit cette phrase surréaliste. En vérité, hors de la scène, je ne me suis jamais senti à l'aise pour m'amuser librement. Je ne sais pas trop pourquoi je me promenais toujours avec un balai dans le cul et une certaine dose de fierté.
Autre confidence étonnante, Steven, elle concerne la voix de Bruce Springsteen.
Stupéfiant passage à la fin du livre. Soyons clairs, je n'en ai pas vraiment. J'ai la puissance, la tessiture et la résistance d'un barman. Mais je n'ai ni une belle couleur, ni une finesse vocale particulière. Et de confier plus loin, j'envie Rod Stewart. Bruce Springsteen signe ses plus belles pages à propos de sa relation à la scène. Bizarrement, devant des milliers de personnes, je me suis toujours senti parfaitement en sécurité pour me laisser complètement aller. C'est pour ça qu'en concert, on ne se débarrasse pas si facilement de moi. Sur scène, il y a aussi son groupe historique, le E Street Band. C'est plus qu'une idée, plus qu'une esthétique, c'est une philosophie, un collectif, note l'artiste. Autre citation, je voulais le pouvoir de création et le pouvoir de décision d'un artiste solo, mais aussi la vitalité qui n'existe que dans un vrai groupe de rock. Le E Street Band lui permettra aussi de rencontrer la femme de sa vie, la mère de ses 3 enfants, Patty Scalfa. Ensemble, on a bâti un sacré truc avec nos fêlures. Fêlures, ça aurait pu être le titre de cette formidable et passionnante autobiographie Born to Run. Ça sort aujourd'hui chez Albin Michel. La compilation Chapter and Verse est disponible depuis vendredi. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was
unrecognizable to myself. I saw my... Merci beaucoup Steven Belay. Cette chronique lance une journée spéciale Bruce Springsteen sur RTL. Nous écouterons ses plus grands succès toute la journée sur l'antenne. Et puis saga Bruce Springsteen à 23h avec George Lang. Et tous les auditeurs qui passeront sur l'antenne aujourd'hui gagneront cette autobiographie dont vous venez de nous parler. Dans quelques instants, les audiences télévisées d'hier soir avec Isabelle Morini-Bosque qui a gagné, vous le saurez dans un instant.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Alors, à 9h10, mes enfants chéris, Médiamétrie a visiblement un problème technique, donc nous vous donnerons les audiences soit un peu plus tard, soit pas du tout, qui est une seconde option sur laquelle je fais une sorte de pari. Voilà, c'est à peu près sûr que l'amour est à peu près bien placé. Quelle jolie définition. Nous dit Isabelle Morini-Bosque, on va quand même parler de notre soirée télévisée. Ah Isabelle, voilà, petit cheval fougueux. Très bien, c'est de plus en plus luxueux cette matinée.
Devenir une habitude.
Alors, Marc-Olivier Fogel. Alors, attendez, jingle. Alors, les audiences de notre soirée télévisée avec Marc-Olivier Fogiel et nos amis de Médiamétrie.
Oui. Donc, vous souhaitez quoi comme audience,
chérie ? L'amour,
l'amour est dans le prêt, attendez. 4 877 000 et 19,9.
Ils sont en tête.
Ils
sont
en tête. Cassel, attendez.
Cassel, s'il
vous plaît. Cassel, c'est ça. 3 5 millions et 13,9.
Voilà.
Et TF1, 19,2 et 4 millions 8. Voilà.
C'est ça.
Votre serviteur.
Merci beaucoup.
On va prendre dans la 6e cet après-midi.
Voilà.
Merci.
Donc, l'amour est dans le prêt, en tête.
On a le budget pour une fille, par contre. Désolé.
Vous vous rendez compte ? Bon, c'est merveilleux. Dès qu'on a un problème, hop, il le résout en quelques secondes. Alors, on en revient à notre soirée télévisée. Merci une fois de plus à Marc-Olivier Fogiel. Malgré la concurrence, Isabelle, vous avez choisi Marion, 13 ans pour toujours, téléfilm que France 3 consacre au harcèlement d'élèves sur Internet.
Oui, et pourtant j'aime et la série Blindspot sur TF1 et le jeu que Nagui et Stéphane Bern consacrent à la France sur la 2 ce soir. Mais voilà, le téléfilm de la 3 est d'autant plus nécessaire qu'il est réussi. Marion, 13 ans pour toujours, raconte le suicide d'une fillette de 13 ans, trop équilibrée, trop brillante et trop droite pour certains élèves de sa classe de 4e qui en avaient fait leur souffre-douleur et en classe et sur Internet. Échantillon, après son décès, sa mère Nora, jouée brillamment par Julie Gayet, découvre le compte Internet de sa fille.
Atroce. Bon, elle avait un compte. Moi, j'en étais sûre.
On lui avait interdit.
Oui, mais elle l'a fait. Regarde les atrocités.
Tu vas t'en prendre plein la gueule.
Salope, c'est toi la bolosse. Oh la Marion, la salope est dans les parages, grosse moche mais... Regarde celle-là. 12 février, sale pute va te pendre. Tu vois, David, c'est pas un suicide, c'est un assassinat. Et moi, je vais rentrer en guerre contre les assassins.
Voilà. L'histoire est tirée d'une histoire vraie, celle de Nora Fraisse, une mère aujourd'hui en guerre contre ce harcèlement et contre la lâcheté des enseignants. Elle avait demandé plusieurs fois à ce que sa fille change de classe. Qu'a-t-elle pensé du téléfilm ?
Je trouve que le film est beau et je trouve qu'il rappelle assez bien comment le harcèlement se met en place, pourquoi c'est grave, quels sont les protagonistes, les harceleurs, les agresseurs, la victime, les témoins passifs, ceux qui rient, ceux qui participent, la cyberviolence, voilà. Au-delà de notre histoire, parce que c'est une fiction, c'est un film sur la société d'aujourd'hui. Comment on vit le deuil, la fratrie, comment elle réagit, la lâcheté de la société, ce sentiment d'abandon, cette culpabilité qui nous ronge et qui de toute façon nous est jetée en pleine figure par d'autres.
Oui, parce que dans la fiction, Nora doit faire face à des mères agressives qui lui refusent le droit de vouloir savoir extrait.
Pourquoi tu discutes avec les jeunes ?
Parce que j'ai besoin de comprendre.
Pourquoi t'as besoin de comprendre ? T'es pas gendarme, t'as pas à poser de questions. Écoute Nora, on est tous très peinés pour vous parce que c'est un grand malheur. Mais comment c'est possible que ta fille t'ait rien dit ?
Si, elle m'a dit qu'elle allait se suicider puis je suis partie faire des courses. Bien sûr qu'elle m'a rien dit. Toi, ton fils, quand il revient du collège et qu'il va dans sa chambre et tu lui demandes si ça va, et qu'il te répond ça va, tu fais avec ? Tu commences par l'interrogatoire.
Moi, mon fils, il me dit ça va et que c'est pas vrai, je le sens. Je suis sa mère.
Et pour Nora Fraisse, on est là nettement en dessous de la vérité qu'elle a vécue.
C'est un peu plus long, oui. Dans la vraie vie, où elle m'explique comment ça, Marion, t'as rien dit, tu n'as rien vu, voilà. Enfin, c'est terrible, ouais. Il y a des agressions véridiques. La maman qui vient ensuite me voir en disant ma fille va pas bien, je lui dis la mienne est morte, mais ça l'intéressait pas, voulait savoir. Voilà, dans la vraie vie, j'avais mon fils qui à l'époque n'avait que 2 ans dans mes bras, et tout le monde passait autour, donc c'est assez compliqué, ouais.
Mais alors, comment va-t-elle sur le plan personnel aujourd'hui, Nora Fraisse ?
Sur le plan judiciaire, les instructions sont en cours, hein, plainte au pénal en cours, recours administratif en cours, tout est en cours. Voilà, on ne lâche rien. Il faut savoir que la loi contre le harcèlement à l'école n'existe que depuis 4 août 2014. Moi, Marion est décédée en mai 2013. La plainte est une plainte pour homicide involontaire, violence volontaire, omission de porter secours, incitation au suicide. Donc voilà, puis d'un point de vue personnel, comme vous le voyez dans le film, on a été un peu mis de côté. Donc on a déménagé, on essaye de se reconstruire. Vous doutez bien que notre seconde fille ne pouvait pas aller dans le collège où était Marion, puisque l'équipe pédagogique est toujours en place. C'est dur d'avoir dû quitter la maison familiale où sont nés nos enfants, où on avait construit une vie. Ce sentiment d'être viré de chez soi, c'est assez particulier. Ma fille, Marion, restait là-bas, mais il valait mieux partir pour la santé de tous.
Alors depuis 3 ans, jamais le lycée n'a eu un mot officiel de compassion ou de regret, méritant un peu pour elle de passer du banc de l'école au banc de touche.
Est-ce qu'on sait ce que pensent les enfants de ce téléfilm ?
Alors, je l'ai visionné avec certains élèves venus d'une classe de Reims et avec Marion, alias Luana Barjami, évidemment touchée.
Oui, c'était pas facile de jouer le rôle de Marion parce que on ressent ce qu'elle a vécu, donc c'est très émouvant, bouleversant. Même si l'insulte est très légère, répétée tous les jours par un groupe, c'est très violent, personne ne devrait faire ça et ça ne devrait pas exister en fait, tout simplement.
Comment ça, des phrases légères ? Eh bien, en fait, faut être honnête, cette génération qui tweet et parle sans verbe est certes choquée, mais quand même, Edwina, par exemple, en seconde, trouve ça donc moyen, et d'écrire des tweets comme ça, et de se suicider pour ça.
Moyen. Quelques propos, oui, mais la plupart, non. Les propos qu'on disait en classe et tout, non, ça m'a pas choquée.
C'est-à-dire les méchancetés qu'on lui disait ?
Oui, parce qu'on entend beaucoup ça, du coup, on prend l'habitude d'entendre ça tout le temps.
Alors en revanche, Florian, ça vous choquait, et il l'avoue, plus tard, il fouillera dans l'ordinateur de ses enfants.
Oui, parce que vu dans la génération dans laquelle on est, plus tard, ça peut devenir encore pire. Du coup, il faut bien surveiller sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'insultes, l'harcèlement, c'est nombreux quand même. Faut pas faire aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on nous fasse, quoi.
Voilà, formidable téléfilm, 20h55, France 3 ce soir, c'est vraiment à voir.
Merci.
Et c'est très tourné vers l'avenir, hein, c'est positif.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Monique Younes, la bande dessinée RTL de septembre est l'adaptation d'un des plus beaux romans d'Antonio Tabucchi, Pereira Prétend. Mm-hmm. Elle est l'œuvre du dessinateur Pierre-Henri Gaumont aux éditions Sarbacane.
Mais oui, et une adaptation tout à fait à la hauteur du roman de Tabucchi, disons-le d'emblée. L'affaire, si vous avez lu le roman, se passe dans le Portugal salazariste de la fin des années 30. Le caractère dictatorial de ce régime ne fait plus doute. Les espions occupent tous les postes et les policiers n'hésitent pas à brutaliser les suspects. Alors, cette situation semble laisser de marbre la plupart des citoyens, ce qu'on appelle souvent la majorité silencieuse et passive. Et parmi eux, Dutor Pereira, la cinquantaine. Il est le responsable des pages culture du Lisboa, le grand quotidien du pays. Dutor Pereira est passionné de littérature. La littérature, on l'a compris, est pour lui un refuge qui lui permet de ne pas s'intéresser aux événements politiques qui bouleversent l'Europe. C'est le personnage de Dutor Pereira qui a d'ailleurs donné envie à Pierre-Henri Gaumont d'adapter le livre de Tabucchi.
J'avais un peu le sentiment, en lisant ce livre, de suivre le parcours d'un ami qui est un peu au bord du précipice et qu'on retient par la manche. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. En le lisant, je voyais le Doutor Pereira comme si je l'avais déjà dessiné, quoi. Il est atteint d'une forme de bovarisme que je peux partager avec lui, cette façon de vivre à travers les livres. Et je trouve très beau, hein, que pour nous dire que la fiction, c'est pas tout dans la vie, Tabouki utilise une fiction. Il y a quelque chose qui met en œuvre la puissance des livres, quoi.
Alors Pereira prétend que la chose politique l'ennuie. Il n'aime pas les fanatiques. Alors ses amis anarchistes lui répondent qu'on peut avoir des convictions sans être fanatique. Mmh. Et alors Pereira se prend d'affection pour cette jeunesse révolutionnaire. Et tout en prétendant s'opposer à ses convictions, il devient une sorte de résistant malgré lui.
Je trouve très beau que quelqu'un de cet âge-là soit capable de se remettre en cause à ce point-là. Et de se dire... Mais si ça se trouve, tous les choix que j'ai faits depuis toujours sont erronés. Et cette très grande fragilité, chez un homme de cet âge-là, c'est extrêmement touchant.
Alors les planches montrant Doutor Pereira en se promenant dans Lisbonne sont d'une très grande beauté.
Tous les dessins sont magnifiques. Et si l'écriture très visuelle de Tabouki facilite l'adaptation, Pierre-Henri Gaumont a éprouvé le besoin d'aller en repérage à Lisbonne. C'était en juillet 2015.
J'ai été subjugué par la ville. Les vestiges de la splendeur passée sont encore extrêmement présentes et on voit que chaque rue est magnifique. On sent très bien que dans certaines parties de Lisbonne, ça n'a pas changé depuis 1938 ou très peu. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, qui est beaucoup raconté par Tabouki, c'est la qualité de l'air et la transparence de l'air. Et ça a vraiment bouleversé mon dessin, en fait, parce que je travaillais beaucoup à l'aquarelle auparavant. Et pour rendre ça, j'ai dû remettre en question ma façon de faire. Et j'ai recommencé dans la technique que vous pourrez voir dans le livre, qui est quelque chose qui s'apparente à la sérigraphie, c'est des superpositions de couches de couleurs.
Alors dites-moi, on lui connaît d'autres albums à Pierre-Henri Gaumont ?
Alors, son premier album remonte à 2011. Il avait pour titre Kirkenes, mais il a un parcours étonnant, Pierre-Henri Gaumont, parce qu'il n'a jamais pris un cours de dessin de sa vie. Il a fait une école de commerce, une thèse de sociologie, avant de commencer par dessiner des albums. Et là, Pereira prétend, mais vraiment, il arrive au sommet, il a brillamment adapté ce roman de Tabouki aux éditions Sarbacane, un des plus passionnants albums de la rentrée.
C'est ce que nous affirme Monique Younes.
Mais oui, le jury du prix RTL, il va vous intéresser cet album, Yves, car il parle de vous, de nous, de notre profession de journaliste, jusqu'où peut-on rester objectif, libre, indépendant, sous un régime qui, précisément, remet en cause votre indépendance, votre liberté d'expression. Est-ce qu'il faut se révolter, courber les chines, partir ? Vous saurez ce que Doutor Pereira a choisi en lisant Pereira prétend de Pierre-Henri Gaumont aux éditions Sarbacane.
Merci Monique Younes. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec le petit Spirou,
oui,
en la personne de Stéphane Boutsock.
Oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous vous emmenons donc, comme promis à présent, sur le tournage du film Le Petit Spirou. Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu sur le plateau il y a quelques jours afin de rencontrer l'équipe.
Rendez-vous fixé en banlieue parisienne dans un gymnase du Raincy en Seine-Saint-Denis, là où ont été reconstitués plusieurs décors de l'histoire de ce film mis en scène par Nicolas Barry d'après la bande dessinée d'Amis de Monique qui s'appelle Tom et Jean-Ri, j'ai bien prononcé.
Bien sûr.
Voilà. BD vendue à plus de 10 millions d'exemplaires depuis 1987.
Bonjour, merci. 54
sur 4
premières.
Et action.
Ça va, monsieur?
Pourquoi tu crois qu'elle est pas venue, toi?
De qui vous parlez?
Peut-être elle a eu peur de mon charisme et mon physique de prédateur.
Devant la caméra ce jour-là, François Damiens est donc le petit Spirou. L'histoire raconte comment ce gamin, destiné comme tous les membres de sa famille à devenir groom, se prend lui à rêver d'autres choses, de grandes explorations, en compagnie de Suzette, l'élu de son cœur. Et tiens, puisqu'on parle du célèbre petit rouquin, bah autant l'écouter. Dans la vraie ville, il s'appelle Sacha Pineau, il a 11 ans, et il commence seulement à réaliser qu'il est la vedette du film.
Au début, j'y croyais pas, quoi. Enfin, c'est mon papa qui m'a dit ça. Je me suis dit, attends, tu me fais une blague. On était dans le train, je pouvais pas trop sauter de joie, mais j'étais content, quoi. J'étais vraiment content. J'arrivais pas à y croire, mais enfin. Je me suis dit, des fois, oh, j'aimerais bien être comme certains acteurs et tout. Johnny Depp. Quand je regardais dans une caméra, ma tête, je me trouvais toujours moche, toujours, mais vraiment nul. À cause de ça, et je me suis jamais dit que je pourrais être acteur. J'aimerais bien continuer sur de nouveaux films. Du coup, si je veux continuer, j'aurai une agence. Donc ce sera plus facile déjà pour trouver des castings.
Alors Sacha Pinault, c'est donc le petit Spirou. Hein. Ouais. Qui sont ses partenaires dans le film, Stéphane ?
Pierre Richard jouera son grand-père, Natacha Régnier sa maman, Philippe Catherine, ça promet, l'abbé Langelus, et François Damien sera monsieur Mégot, prof de sport légèrement alcoolisé, on va dire, amoureux de mademoiselle Chiffre, l'institutrice. Ah, oui. Pour le comédien, interpréter ce personnage relevait presque, écoutez, de l'obligation familiale.
Mes enfants lisent le petit Spirou depuis toujours et... Quand ils ont appris, enfin ils ont vu les BD dédicacés qui sont arrivés à la maison, et quand ils ont vu qu'on me proposait ce rôle, j'ai pas vraiment eu le choix en fait, quoi. Mais j'étais très content de le faire. En plus, c'est un tournage qui passe en douceur. C'est assez facile entre guillemets, quoi. Je trouve qu'il a une façon de tourner très récréative et tout en étant concentré quand même. Mais c'est agréable à faire, quoi. J'ai pas trop l'impression de travailler, quoi.
9 semaines de tournage tout de même pour ce petit Spirou réalisé par Nicolas Barry, metteur en scène des Enfants de Timpelbach ou de Au Bonheur des Ogres. Question, quand on s'attaque à l'adaptation d'une bande dessinée aussi identifiée que celle-ci, avec des personnages forts et marquants, comment on fait ?
Il faut s'en affranchir tout en gardant les fondamentaux, parce que si on essaie de transcrire littéralement certaines choses, on peut se retrouver confronté à un problème de crédibilité. Donc typiquement, par exemple, au niveau des matières, au niveau des tissus, au niveau des couleurs, moi je voulais justement garder ce côté coloré et stylisé, mais je voulais pas que ça fasse déguisement ou que ça fasse trop burlesque ou trop faux en fait. Donc du coup le jeu ça a été de dire, tiens, la BD a gardé une modernité, donc j'ai envie de faire un univers plutôt moderne, pas faire un film d'époque rétro, parce qu'en fait là, le petit Spirou ne parle pas forcément de quelque chose de passéiste. J'aime bien en fait... avoir essayé de creuser un peu dans une direction en explorant un peu voilà, différents moments, que ça soit plus sombre dans l'enfance ou plus lumineux et plus dynamique, quoi.
Alors je peux vous dire, j'ai vu déjà plusieurs scènes qui ont été montées, comme on dit, ça a de la gueule. Fin du tournage, là, dans les jours qui viennent, le petit Spirou sortira sur nos écrans. On a un petit peu de temps, c'est dans un an, le 18 octobre 2017.
On attend ça avec plaisir vraiment. Et curiosité, notre petit Spirou dans un instant. On se retrouve avec toute l'équipe pour se dire au revoir et accueillir notre ami le chanteur espagnol Julián Courbet. Nous on s'est congratulé, on se dit à demain.
Oui.
Et on accueille le chanteur espagnol
Julián
Courbet.
Ah oui, ça aurait été bien ça, hein.
On a chanté la parisienne, l'alpatine et leur chapeau.
Pourquoi vous dites que je suis un chanteur espagnol ?
Mais parce que je sais que vous avez une très jolie voix de
c'est
ténor.
Vrai, j'ai beaucoup chanté dans les mariages.
Vous venez de le prouver.
Ben à oui. Chaque fois qu'il y a un mariage, on me demande de chanter une petite chanson. Ah. Et pour le vôtre, je suis prêt à venir pour 50 euros et un repas chaud. Sachez-le, Yves, si jamais l'idée vous reprenez.
Un repas chaud.
Vous faites les communions aussi ou pas du tout ?
Mais combien d'accord. De fois mais qu'est-ce que vous croyez ?
Les bar mitzvah.
Combien de fois j'ai été invité dans des mariages pour faire le DJ où on me mettait à la table des enfants ? Ça, c'est l'humiliation absolue parce que vous demandez quand même à pouvoir dîner.
Bah oui.
Puisque vous arrivez à 6h, on vous met à la table avec.
Avec trois nuggets. Et puis,
exactement, avec des nuggets si vous voyez passer le foie gras, etc. Ouais. Donc du coup, après, vous vous vengez, vous mettez une mauvaise musique pour gâcher le mariage, mais c'est normal. Non, tant pis pour eux.
Je vous prédis une toute autre carrière dans la chanson espagnole.
C'est très gentil. Bonne journée, mon Yves.
Bonne journée.